Prions. Oui, notre Dieu, merci parce que tu n'es pas resté silencieux. Tu t'es fait connaître à nous, tu t'es révélé à nous au travers de la Bible. Aide-nous maintenant, dans le temps qu'on a ensemble, à mieux comprendre la Bible, à mieux comprendre le message qui est au cœur de la foi chrétienne et à voir ce que ça signifie pour chacun de nous. Aide-nous à repartir en ayant conscience davantage de la gravité de notre problème et de la grandeur de ta grâce et de ta bonté. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. C'est super d'être ensemble pour ce culte de fin d'année. C'est super de pouvoir marquer le coup et d'être vraiment tous rassemblés ensemble. C'est vraiment une joie. Et de prendre du temps aussi pour se rappeler de ce qui nous rassemble. Ce qui fait qu'on est rassemblés en tant qu'Église. Ce qui constitue le lien unificateur, on pourrait dire, de l'Église, de notre Église protestante évangélique de Bruxelles ou au Luet. Ce qui fait le cœur de notre foi. Ce que l'on veut proclamer, mais aussi ce que l'on veut vous inviter à croire, si c'est quelque chose que vous découvrez. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, le cœur de la foi chrétienne. Et au cœur de la foi chrétienne, il y a une belle histoire. Une belle histoire. Pas une belle histoire dans le sens une fable, une belle histoire qui est trop belle pour être vraie, mais une histoire qui est belle, qu'on se plaît à répéter, qu'on se plaît à rappeler, et qui est une histoire qui est fondatrice de tout ce que l'on est, qui définit notre raison d'être. Vous savez, c'est un peu comme ces histoires qu'on se plaît à raconter, à répéter, à redemander auprès de nos parents, de nos grands-parents. « Ah, papa, papa, raconte-moi encore comment tu as rencontré maman. » Le premier regard, le premier rendez-vous. « Ah, papy, papy, raconte-moi encore comment c'était dans les rues à la fin de la guerre mondiale, en 1945. »« Ah, papa, raconte-moi comment c'était dans les rues à Bruxelles quand la Belgique a gagné l'Euro 2020. » Des histoires qu'on se plaît à raconter, qu'on se plaît à répéter et qui constituent, qui sont fondatrices de certains mouvements. Et c'est la même chose au cœur de la foi chrétienne. C'est autour de ce message, de cette histoire qu'on va voir ensemble, que se trouve la raison d'être de notre Église. Parce que l'Église n'est pas un club social, une activité parmi d'autres. Ah, on aurait pu faire de la pétanque ce matin et puis on se retrouve à l'Église, voilà, c'est l'un ou l'autre. On aurait pu rencontrer des bons amis là-bas et on a des bons amis ici. Où l'Église n'est pas une activité religieuse, un phénomène passager pour nous. Mais l'Église est une communauté de personnes qui sont rassemblées autour d'un message dans lequel ils croient et qu'ils veulent proclamer, qu'ils veulent partager autour d'eux. Une communauté de personnes qui comprennent ce message et qui le vivent. Et donc c'est super pour vous si vous découvrez cette Église, si c'est la première fois que vous venez, si vous découvrez la foi chrétienne, c'est une bonne opportunité de voir mais quel est le cœur de la foi chrétienne ? À propos de quoi est cette Église ? C'est une bonne opportunité pour vous si vous revenez après de longs mois d'absence où vous n'avez pas pu venir à l'Église avec le Covid, de vous dire « Ah, mais c'est ça qui est au cœur de la foi chrétienne. C'est ça qui est au cœur de cette Église. » Et pour vous qui venez depuis très longtemps, peut-être vous dites « Ah, mais voilà, ce sera encore une prédication qui ne me concerne pas trop, des choses un peu basiques dont je n'ai plus besoin. » Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on comprend réellement ce message au cœur de la foi chrétienne quand on comprend qu'on en a toujours besoin, chaque jour, chaque semaine de notre vie, et que c'est là que se trouve le moteur et la motivation de notre foi, comme on le verra. Et donc il y a trois choses que j'aimerais que l'on voit à partir de ces versets que l'on a lus dans ce livre de Tite, au chapitre 3. Vous les avez aussi dans le feuillet, à l'intérieur du feuillet. Souvenez-vous de ce que vous étiez, appréciez ce que Dieu a fait, et vivez en conséquence. Et donc, premièrement, souvenez-vous de ce que vous étiez. On voit ça en particulier dans le verset 3. C'est un verset qui s'adresse à des chrétiens et qui décrit comment ces chrétiens étaient avant d'être chrétiens. Il est dit, nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie, nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Peut-être qu'en lisant ce verset, vous vous dites, mais waouh, c'est un peu fort quand même de dire cela. Bah, ces chrétiens devaient être vraiment des mauvaises personnes avant pour qu'on les décrive dans ces termes. Mais en fait, si on y réfléchit, si on prend le temps de creuser, si on est un peu honnête avec nous-mêmes, ce verset s'adresse à chacun de nous. Ce verset décrit parfaitement l'état de l'humanité, l'état de notre humanité. L'état de notre monde, l'état de nos vies, quand Dieu n'en est pas le maître, quand Dieu n'est pas celui qui dirige nos vies. Alors là, on est dimanche, tout le monde est bien habillé, tout le monde est souriant, tout le monde a l'air d'avoir une vie qui est bien rangée, qui est impeccable, avec aucun reproche ou alors quand on est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, bah, la vie des autres a l'air parfaite. Ils n'ont aucun problème, tout va bien pour eux. Mais derrière les masques, quand on fait tomber nos déguisements, on pourrait dire, quand les portes sont fermées, quand on se retrouve entre quatre murs, quand on est loin du regard des autres, c'est là qu'on réalise qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas le cacher. C'est vrai qu'il y a des exemples assez extrêmes de cela. Comme vous, j'imagine, j'ai été choqué cette semaine en lisant le récit du procès de Valérie Bacot, qui était jugée cette semaine pour avoir tué son mari qui, pendant des années, la violait, la battait, la prostituait. C'est juste terrible de voir la noirceur du cœur humain, de l'atrocité humaine qui peut commettre ces choses. C'est terrible. Et là, on dit, oui, ça correspond bien à un tel verset pour décrire une personne qui est capable de commettre ces choses-là, ces atrocités. Mais là encore, si on creuse un peu, si on est honnête avec nos propres vies, cette haine, cette noirceur, il y en a des traces dans chacun de nos cœurs. Et on voit ça de différentes manières. On peut penser aux problèmes qu'il y a dans nos familles. Le cousin qui ne s'entend plus avec le frère, la mère qui s'est embrouillée avec la belle-sœur, et des réunions de famille qui sont explosives. J'ai plusieurs fois eu l'occasion de parler avec des amis qui préparaient un mariage et qui préparaient le plan de table au mariage. Et ils me disaient « Ah mais non, lui, je ne peux pas le mettre avec lui à cette table parce qu'il ne s'entend plus. Ah non, mais elle, je ne peux pas le mettre à cette table parce qu'il ne s'entend plus avec elle, etc. » C'est des situations où on voit bien qu'il y a un problème et qu'on ne peut pas le cacher. C'est pas si loin de ce qu'on voit ici. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Ou on peut penser à la haine que l'on ressent dans notre cœur face à quelqu'un qu'on n'arrive pas à supporter. Où on bouillonne intérieurement. Il y a un problème et on n'arrive pas à le cacher. Ou on peut penser à notre cœur qu'on n'arrive pas à maîtriser. Certains désirs, certaines addictions. On a l'impression que c'est plus fort que nous. Qu'on n'arrive pas à résister. Dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des pensées, dans le domaine de la boisson, dans le domaine de nos paroles, des commérages, dans tellement de choses où on n'arrive pas à maîtriser, à lutter contre ces choses. C'est pas si loin de ce qu'on voit ici. Esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Certains pensent que le christianisme, c'est une privation de la liberté. Ils pensent que par nature, les êtres humains sont libres, on fait ce qu'on veut. Et devenir chrétien, s'intéresser à la religion, bah, c'est se priver de toute liberté, c'est se contraindre à un esclavage qui sera difficile. Mais en fait, cette liberté que l'on pense avoir, c'est qu'une illusion. Et on le voit quand on essaye de changer, c'est difficile de changer. Il suffit de demander à ceux qui essayent d'arrêter de fumer, ou à ceux qui essayent de suivre un régime, ou en fait à chacun de nous quand on essaye de gommer, de corriger les défauts qui font surface dans notre vie. C'est dur de changer, parce que naturellement, on obéit au désir de notre cœur. On va là où il nous dicte, on fait ce que lui veut qu'on fasse, on n'a pas le choix. Il y a un problème et on ne peut pas le cacher. Et ce problème, il n'est pas juste avec les autres, il n'est pas juste avec nous-mêmes, mais il concerne aussi notre relation avec Dieu, notre Créateur. Il est question ici d'être stupide, rebelle et égaré. On est stupide parce qu'on manque la vraie connaissance. La connaissance de ce qui est évident. On rejette l'existence de Dieu alors qu'il s'est révélé clairement à nous au travers de tout ce qu'il a créé. C'est stupide de faire cela. On est rebelle parce qu'on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas se soumettre à lui, on ne veut pas lui obéir, même si on sait qu'il existe, même si on sait qu'il est là, même si on sait qu'il a raison. On est égaré parce qu'on est perdu. On pense être sur le bon chemin alors qu'on n'est pas sur le bon chemin, on est à côté de la plaque. On pense savoir alors que l'on ne sait rien. Alors peut-être que là, vous vous dites, bon, c'est sympa Benjamin, c'est peut-être vrai pour toi, peut-être toi t'es stupide, rebelle et égaré, mais moi ça va très bien. Ma vie est plutôt correcte, j'essaie d'avoir une bonne morale, j'ai une vie parfois religieuse, bah, tout va bien. Mais il faut réaliser que nos vies peuvent avoir l'air religieuses, nos vies peuvent avoir l'air morales, et pourtant cacher des traces de rébellion. Cacher une direction qui ne va pas dans le bon endroit. Un ami m'avait partagé une illustration à ce sujet. Imaginez que vous débarquiez sur un bateau plein de pirates. Et vous voyez ces pirates, et ils ont l'air vraiment sympas les uns envers les autres. Ils sont très polis, ils ont des paroles de bienveillance, ils pensent aux autres membres de l'équipage. Ils sont vraiment des bonnes personnes. Vous dites, ah mais ça c'est des personnes morales. Oh ça c'est presque même des personnes religieuses. Ils ont une bonne vie. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que vous apprenez plus tard, c'est que ces pirates, ils ont détourné ce bateau. Ils ont tué tous les membres de l'équipage, ils les ont passés par-dessus bord, et ils sont en train de détourner le bateau dans une autre direction. Bah oui, il y a une apparence morale, bonne, mais derrière, c'est la rébellion qui se cache. Et ça, ça peut être le cas pour chacun de nous. Et honnêtement, si on y pense, quand les religions dans le monde mettent en avant le salut par les œuvres, c'est-à-dire que c'est le bien que l'on fait qui va nous donner accès à Dieu, pour gagner accès à Dieu au paradis, bah, il faut vivre une belle vie, il faut être moral, il faut faire du bien. Quand on enseigne ça, en fait, c'est profondément égoïste. C'est profondément rebelle et offensant envers Dieu, parce que la raison pour laquelle je vais faire du bien, c'est pas pour le bien en lui-même, c'est pas pour Dieu, c'est pas pour les autres, mais c'est pour moi-même. C'est pour sauver ma peau. C'est pour gagner quelque chose de la part de Dieu. C'est pour aller au paradis. Donc là encore, même dans une manière de vivre qui pourra paraître morale, il y a une direction qui ne va pas au bon endroit. Il y a un problème, et on ne peut pas le cacher. Et ce problème nous concerne. Il est dit, nous étions autrefois, de telle manière. C'est nous le problème. Souvent, on peut dire, ah, mais les gens font ça, les gens n'ont aucun respect, ils jettent leurs papiers par terre, les gens ne mettent pas le masque, les... voilà, toutes sortes de choses. Mais trop souvent, dans ma vie, je dois réaliser que quand je parle des gens, je parle aussi de moi-même. Et trop souvent, je suis coupable du mal que j'essaye de dénoncer. Est-ce que vous êtes conscient que l'humanité, notre humanité, est telle qu'elle est décrite dans ce verset. Est-ce que vous êtes conscient que vous et moi, on est tel qu'il est décrit dans ce verset ? C'est ce que la Bible appelle le péché, et qui peut prendre différentes formes. C'est une transgression de ce que Dieu veut. C'est ne pas faire ce que Dieu veut, et c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin du salut dont on va parler prochainement. Parce que ce péché, ces fautes, cette situation dans laquelle on est, notre rébellion, nous met face à un jugement de la part de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. On est coupable. Et donc c'est normal que l'on soit jugé. Alors peut-être on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Paul écrit tout ça à ses chrétiens ? Bah, juste avant notre verset, dans le verset 2, que vous n'avez pas ici, mais qu'on a lu juste avant, qu'on n'a pas lu, mais qui est juste avant, Paul a demandé à ses chrétiens d'être plein de douceur envers tous les hommes. Il devait être plein de douceur envers tous les hommes. Et Paul veut leur montrer que ces hommes envers qui ils doivent être pleins de douceur, ben en fait, ils sont comme eux, ils étaient avant. Ils sont pas pires. Ils étaient pareils. C'est comme s'il leur disait, mais vous dites peut-être qu'ils ne méritent pas que vous les aimiez, que vous soyez plein de douceur envers eux parce qu'ils sont trop méchants. Mais souvenez-vous, vous étiez pareils avant. Vous étiez comme eux. Vous n'étiez pas différent. Il y a une erreur d'oublier l'histoire. Ça peut être catastrophique. Ça peut nous faire répéter les mêmes erreurs et avoir des conséquences désastreuses. Et c'est pareil en tant que chrétien. Quand on oublie notre histoire, quand on oublie où on était, quand on oublie d'où Dieu nous a tirés, c'est là que la mauvaise herbe de l'orgueil, de la supériorité pousse dans notre cœur et qu'on se pense meilleur que les autres. Et qu'on se pense que bah, nous, on méritait quand même un peu que Dieu nous sauve. On a une vie bien rangée. Mais regarde eux ce qu'ils font. Regarde comment ils vivent. Ah, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je n'étais pas comme ça. Au lieu d'oublier d'où on vient, où on était, d'où Dieu nous a tirés, qu'on est au même niveau, que personne n'est meilleur qu'un autre. Souvenez-vous de ce que vous étiez. La deuxième chose qu'on voit dans ces versets, que l'on peut apprendre un peu plus positive et qui se base sur la première, c'est apprécier ce que Dieu a fait. Apprécier ce que Dieu a fait. Dans la vie, il y a des mais, le mot mais, la conjonction de coordination, qui ne changent pas grand-chose. Par exemple, je voulais aller acheter du pain ce matin, mais la boulangerie était fermée. Bon, ok, c'est dommage, mais ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas radicalement différent que ça ait le cas, ça ait eu lieu ou pas. Mais il y a d'autres mais qui changent grand-chose, qui ont des conséquences énormes. Par exemple, des amis ont eu un grave accident de voiture, mais ils sont sains et saufs. Ou alors, j'ai été diagnostiqué par un cancer, mais il y a un traitement qui est possible. Ah ben là, c'est différent. Là, on est dans une autre catégorie. Ce « mais » change tout. Il fait passer du désespoir à l'espoir. Et dans les versets qu'on a lus, il y a aussi un « mais ». Et c'est un « mais » qui appartient à la deuxième catégorie. C'est un « mais » qui change tout, qui fait passer de désespoir à l'espoir. On le voit au verset 4, juste après ce qu'on a vu, cette situation désespérée, désastreuse, où on est face à un jugement de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit ? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il y avait ce tableau triste de notre humanité qui était perdu. Mais Dieu est intervenu. Dieu est intervenu pour nous sauver. Dieu est intervenu pour nous sortir de cette situation. Et on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça ? Pourquoi est-ce que Dieu est intervenu dans la situation dans laquelle on était ? Et on doit dire, si on prend en considération ces versets, que ce n'est pas parce qu'on était aimable. On l'a vu avec le verset juste avant, il n'y avait aucune raison en nous-mêmes pour que Dieu nous sauve. On n'était pas bon, on était plutôt détestable. Si on devait recevoir quelque chose de la part de Dieu, ce n'était pas son salut, ce n'était pas un cadeau, ce n'était pas de la grâce, mais c'était le jugement. C'est ça qu'on méritait. Et pourtant, Dieu nous a sauvés. C'est surprenant, c'est un peu comme si un professeur choisi comme délégué, comme représentant de la classe, le pire élève, celui qui fait rien, celui qui fait tout le temps des crasses, que c'est lui qui choisit. On se dirait, mais c'est pas lui que tu devrais choisir. Il n'est pas aimable, il n'est pas bon, il a rien fait pour le mériter. Au contraire, il a tout fait pour ne pas le mériter. Si Dieu est intervenu, si Dieu nous a sauvés, c'est pas non plus parce qu'on aurait fait quelque chose de positif pour nous sortir de cette situation. Il est dit, verset 5, « Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir. » Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice, à cause du bien que l'on aurait pu faire. Ça, c'est surprenant parce que c'est comme ça que la plupart des religions fonctionnent aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens voient la religion. Il faut faire du bien pour accéder à Dieu. Il faut faire des bonnes œuvres pour espérer un jour aller au paradis. C'est un peu comme les joueurs de foot, pour être sélectionnés pour l'Euro, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent montrer qu'ils sont à la hauteur. Ils doivent montrer qu'ils jouent bien. Ils doivent montrer qu'ils peuvent marquer des buts, qu'ils peuvent bien défendre, qu'ils peuvent arrêter les goals. Et s'ils jouent bien, s'ils sont à la hauteur, Roberto Martinez va les sélectionner pour l'Euro. La plupart des religions fonctionnent comme ça. Fais du bien, montre que tu es à la hauteur, et Dieu te donnera quelque chose. On peut penser à l'islam, avec les 5 piliers de l'islam qu'il faut observer, qu'il faut respecter pour que ce bien soit pris en compte au jour du jugement. On peut penser au bouddhisme qui prône ultimement la libération de l'âme, le détachement de nos désirs, et c'est ça qui est défini comme étant le salut ultime. C'est quelque chose qui vient de nous, c'est de dire que la solution vient de nous-mêmes. On doit faire quelque chose, on doit agir pour cela. C'est comme ça que beaucoup voient aussi la foi chrétienne. C'est une liste de règles, c'est une liste de choses à faire, et si on passe le test, on pourra aller au paradis. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. De penser ainsi, ce serait de penser qu'un criminel devant le tribunal, il suffirait qu'il dise « Ah, mais vous savez, j'ai donné de l'argent aux pauvres une fois. J'ai aidé une dame à traverser la rue, donc vous devez me pardonner. » Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne fonctionne pas, ce serait injuste que ça soit le cas. Et heureusement que ce n'est pas pour cette raison-là que Dieu est intervenu. Ce n'est pas parce qu'on était aimable, on n'était pas aimable. Ce n'est pas parce qu'on l'a mérité qu'on aurait fait du bien pour cela. Non, la seule raison, c'est sa bonté. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Il est répété plusieurs fois dans ces versets, la bonté de Dieu, son amour, sa compassion, sa grâce. La seule raison, c'est l'amour généreux et gratuit de Dieu. On ne mérite vraiment pas, on n'a rien fait pour le gagner, mais Dieu nous le donne quand même. C'est incroyable ça, c'est merveilleux. Et j'essayais de penser s'il y avait une illustration de notre quotidien qui nous aidait à comprendre cela. Et en fait, il n'y en a aucune. qui a un amour qui se donne à un tel point. Mais une illustration qui m'est venue et qui est imparfaite, mais qui aide à saisir le caractère immérité de ce don de Dieu, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais adolescent au collège, donc au début du secondaire en France. J'étais pas forcément toujours un bon élève, et mon père, mes parents m'avaient promis qu'ils allaient m'acheter une manette pour jouer aux jeux vidéo. Donc ils m'avaient promis ça, je me réjouissais, il y avait une certaine date à laquelle je devais recevoir cette manette, on devait aller l'acheter ensemble. Et puis voilà, j'étais pas toujours un très bon élève et j'ai fait certaines choses, je vais pas donner des détails, mais je me suis fait virer de mon collège, virer de l'école secondaire pour quelques jours. Donc une faute assez grave et assez choquante pour mes parents. Et c'était au moment, juste avant, où je devais recevoir cette manette. Et donc moi, je me suis dit dans ma tête, je pensais même pas recevoir cette manette. Je me suis dit, mais c'est impensable que je reçoive quelque chose de bon. Je vais plus avoir punition sur punition pour une certaine période de temps. Et puis je me souviendrai toujours qu'au moment où on devait aller acheter cette manette de jeu, mon père est venu vers moi et m'a dit, allez Ben, on y va. Et moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais on va où? Il m'a dit, on va acheter la manette. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais est-ce qu'il est pas au courant de ce que j'ai fait? Est-ce que peut-être faut que je lui dise que non, mais je le mérite pas. Tu devrais pas faire ça. Et pourtant, il l'a fait. Et ce jour-là, alors c'est une illustration imparfaite, mais j'ai appris quelque chose du caractère immérité. Recevoir quelque chose qu'on mérite vraiment pas. C'est encore plus grand quand on parle de cet amour que Dieu nous donne. On le mérite vraiment pas. On n'a rien fait pour le gagner, mais Dieu nous le donne quand même, généreusement. Comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est un torrent d'amour et de grâce. C'est comme un fleuve qui déborde et qui nous envahit. Le fleuve de l'amour, de la bonté, de la compassion de Dieu. Ça change notre vision de Dieu. On a parfois la vision d'un Dieu froid, d'un Dieu distant, d'un Dieu sévère, un peu comme le père Fouettard. Son seul rôle, c'est de nous punir. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui montre un amour qui est gratuit et qui est immérité. Mais il ne faudrait pas non plus avoir la vision d'un amour qui est léger, d'un amour dans le sens qui tolérerait le mal, où Dieu deviendrait un bisounours qui pardonne toutes nos fautes. « Ah, vous êtes pécheurs, vous êtes mauvais, c'est pas grave, je vous laisse passer, allez-y. » Non, là non plus. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Ce n'est pas l'amour dont il est question ici. Un tel amour, il serait injuste. Un tel amour, il serait scandaleux. Ce serait comme d'absoudre un criminel devant le tribunal parce que le juge dirait « Ah, vous êtes sympa, allez-y, monsieur. » Non, on crierait au scandale, ce n'est pas normal. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Dieu peut nous aimer? Comment est-ce que Dieu peut nous pardonner d'une manière qui est tout à fait juste? Et on a un élément de réponse dans ces versets. À la fin du verset 6, où il est question de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ça la clé. Dieu pardonne parce que Jésus a payé. Dieu pardonne parce que Jésus a payé. Jésus a vécu une vie parfaite, sans aucune faute, tellement loin de la vie que nous avons vécue, tellement loin de ce qui est décrit dans ces versets pour l'humanité, notre humanité. Et Jésus est mort sur une croix. Et sa mort n'était pas une mort banale. Ce n'était pas un accident, mais il est mort pour nos péchés. Il est mort pour prendre à notre place le jugement qu'on mérite, le jugement qu'on aurait dû payer. Et c'est là, sur la croix, qu'on voit l'amour, la compassion de Dieu briller comme le soleil en plein midi. Parce que Jésus est le seul qui est innocent. Il est le seul qui ait jamais péché. Il n'a aucun péché pour lequel payer. Et pourtant, c'est lui qui meurt. C'est lui qui donne sa vie à notre place, pour qu'en croyant en lui, on puisse être sauvé, on puisse être pardonné. C'est incroyable. Et ce n'est pas qu'il meurt pour des gens qui le méritaient, c'est qu'il meurt pour des gens qui ne le méritent vraiment pas, qui ne sont pas aimables, qui sont détestables. Il aurait toutes les raisons de ne pas le faire. C'est ça le don gratuit qui est au cœur de la foi chrétienne. Et pour en bénéficier, il ne faut pas faire. Il ne faut pas essayer d'avoir le CV le plus irréprochable possible, mais il faut simplement le recevoir les mains vides. Il faut placer sa confiance en Jésus. Il faut reconnaître que oui, c'est vrai, je suis pécheur, je suis coupable, je dois faire face à un jugement. Mais Jésus a donné sa vie pour moi, pour que je sois pardonné, pour que je sois en bonne relation avec Dieu. Et c'est tout. Oui, C'est tout. C'est pas à cause des actes de justice. C'est conformément à sa compassion. Vous dites peut-être, mais c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, c'est trop beau parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, parce que c'est réel, parce qu'on peut être réellement pardonné de toutes nos fautes par la simple foi en Jésus, en plaçant notre confiance en Jésus. Alors c'est trop beau. Alors il n'y a aucune histoire qui est aussi belle dans ce monde. Mais c'est vrai que c'est dur à accepter. C'est dur de reconnaître qu'on ne peut rien faire. C'est dur de reconnaître qu'on ne doit rien faire. Je me souviens d'avoir parlé avec un ami, on a lu une partie de la Bible ensemble, je lui ai présenté le cœur de la foi chrétienne que je vous présente en ce moment, sur plusieurs semaines, et il a compris pas mal de choses, mais il luttait avec cette question-là, je n'ai rien à faire pour être sauvé, juste à recevoir par la foi. Et il m'a dit une fois, mais Benjamin, je comprends que je suis pécheur, je comprends que je ne pourrais rien faire pour être accepté par Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il voulait faire. Il voulait faire, il ne pouvait pas ne rien faire. Mais tu ne peux rien faire d'autre. En fait, tu n'as rien besoin de faire d'autre. Parce que Jésus a déjà tout fait. Jésus a fait ce qu'il fallait. Alors si ce n'est pas encore votre cas, si vous découvrez ces choses, si vous luttez toujours avec cette question-là, mais est-ce que je suis en règle avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à faire face à mon Créateur? Est-ce que le jour du jugement est un sujet de terreur pour moi, où je ne suis pas prêt à y faire face? Si c'est votre cas, je vous invite à placer votre confiance en Jésus. Tout simplement, c'est là que se trouve le pardon. Il ne faut pas faire, mais il faut croire. Il faut le recevoir par la foi. C'est là que se trouve le pardon des péchés. C'est là que se trouve une relation restaurée avec Dieu. Si vous êtes déjà chrétien, si c'est déjà des choses que vous croyez, je vous encourage à apprécier ce que Dieu a fait. Le caractère immérité de ce salut. On peut tellement s'habituer à ces choses, se dire « oui, je suis sauvé, je suis pardonné, mais c'est normal. » Comme si Dieu devait nous sauver. Non, à partir du moment où il y a un devoir, ce n'est plus une grâce. À partir du moment où on mérite quelque chose, ce n'est plus une grâce. La grâce est quelque chose d'immérité, que Dieu nous donne alors qu'on ne le mérite vraiment pas. Et c'est ça qui se trouve au cœur de notre salut. Appréciez ce que Dieu a fait. Et enfin, plus rapidement pour terminer, vivez en conséquence. Vivez en conséquence. Souvent, quand je parle de ça avec mes amis, surtout mes amis musulmans, il faut dire, mais aussi avec d'autres, ce qu'ils me répondent, c'est de dire, mais Benjamin, c'est vraiment trop facile. Tu veux dire qu'il suffit que je croie en Jésus, je suis pardonné, et c'est tout. C'est-à-dire que je peux faire n'importe quoi. Je peux vivre comme je veux. Et ensuite, j'ai juste à croire en Jésus, et j'irai au paradis. Mais de penser comme ça, ce serait ne pas comprendre toute cette histoire, tout ce message. Ce serait pas comprendre la grâce et le salut dont on a parlé. Parce qu'il est question non seulement d'un changement complet, mais aussi d'une motivation nouvelle. Il est question d'un changement complet. On voit à la fin du verset 5, Dieu nous a sauvés pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Ces versets évoquent ce qui se passe quand on devient chrétien, quand on place sa confiance en Jésus. Il est question d'une transformation intérieure complète. Il est question d'un changement produit par le Saint-Esprit, d'une nouvelle naissance. C'est si radical qu'on peut l'appeler nouvelle naissance, d'un nouveau départ. C'est un peu comme si quelqu'un a joué au rugby dans la boue, il est tout sale, on n'arrive plus à le reconnaître, et puis il va prendre une douche, il va mettre des nouveaux habits, et quand il sort, on se dit « mais waouh, c'est une autre personne ». C'est plus le même. C'est un peu la même chose, un changement complet quand on devient chrétien. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose qu'on produit nous-mêmes, mais c'est quelque chose que Dieu produit. C'est opéré par le Saint-Esprit, comme il est dit ici. Des nouveaux désirs, un nouveau cœur, où on ne veut plus vivre pour ce qu'on aimait avant. On est changé, on est transformé. J'ai lu l'histoire d'un chrétien, enfin de quelqu'un qui est devenu chrétien au XVIIIe siècle, et c'est quelqu'un qui était assez riche, il avait pas mal de propriétés, il avait des cochers, donc c'est les gens qui conduisent les chevaux, et qui le connaissaient bien, qui le voyaient vivre du coup un peu tous les jours. Et un des invités de ce monsieur a fait remarquer au cocher, mais vous avez vu votre maître, il est devenu religieux, il est devenu chrétien, c'est surprenant. Et le cocher a répondu, ah ben je sais pas, moi je connais pas les détails, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que même si c'est la même peau, c'est un nouvel homme à l'intérieur. J'ai trouvé ça fort. C'est la même peau, mais c'est un nouvel homme à l'intérieur. Parce qu'il avait connu une transformation si grande qu'il était totalement nouveau, totalement transformé. Et ce n'est pas qu'on devient parfait. C'est pas que tout va aussi vite qu'on voudrait. Mais c'est qu'il y a un changement progressif qui prend place, où on veut rejeter ce pour quoi on vivait avant. On a un désir de vivre autrement. Mais non seulement il y a un changement complet, mais aussi on a une motivation nouvelle. Une motivation pour vivre différemment. Parce que ce n'est pas qu'on fait des bonnes œuvres pour être sauvé, pour gagner quelque chose de la part de Dieu, mais c'est plutôt maintenant qu'on est sauvé, maintenant qu'on a reçu un pardon gratuit et généreux de la part de Dieu, alors on veut faire des bonnes œuvres. Alors on veut vivre pour le bien. Alors on veut agir par reconnaissance envers le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a tout donné. Un peu comme quelqu'un qui se noierait dans la mer et qui serait sauvé par quelqu'un d'autre, par un sauveteur en mer. Ben, il voudrait être reconnaissant envers cette personne. Tu m'as sauvé la vie. Comment est-ce que je peux exprimer de la reconnaissance? C'est un peu la même chose ici. On est sauvé généreusement, alors on veut vivre différemment. C'est ce qu'on voit avec le verset 8, le petit 8. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. La suite logique de la foi en Dieu, c'est de pratiquer de belles œuvres. On voit là la grâce, le pardon, l'amour immérité. Et ça, c'est la plus puissante des motivations à faire le bien dans ce monde. Et c'est pour ça que se rappeler cette belle histoire de la foi chrétienne, c'est si important. C'est pour ça que c'est super qu'on ait pu passer ce temps à voir, mais qu'est-ce que ça signifie? Quel est le cœur de la foi chrétienne? C'est important pour vous si vous connaissez déjà ces choses, même depuis des années. Parce que c'est ça qui va vous motiver à aimer. C'est ça qui va vous motiver à pardonner. C'est ça qui va vous motiver à vivre pour la gloire de Dieu dans ce monde, à vivre la sainteté dans ce monde. Peut-être que vous vous sentez un peu refroidi dans votre foi, après cette longue période de Covid, après ne pas avoir été à l'église pendant longtemps, ne pas avoir été en contact avec ce message pendant longtemps. Ben justement, c'est l'occasion de revenir au cœur de ce message, à la simplicité de la foi chrétienne, à l'amour immérité et généreux de Dieu. Parce que c'est de là que tout démarre. Mais c'est aussi super pour vous si vous dites plutôt à l'extérieur de toutes ces choses. Parce que c'est de ce message dont vous avez besoin. Que vous soyez religieux ou pas, si c'est vrai, alors vous en avez besoin. Si on est réellement pécheur et séparé de Dieu, alors on a besoin d'une solution. Et si Jésus est le seul chemin pour accéder à Dieu, alors il faut prendre ce chemin. Et si c'est une question qui s'intéresse à notre éternité, alors ça vaut la peine de s'y intéresser aujourd'hui même. Alors j'aimerais vous encourager à creuser encore, à poser des questions à celui qui vous a invité, ou celle qui vous a invité, à venir nous voir à la fin de cette rencontre, à lire une partie de la Bible pour vous dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour moi? Mais aussi vous encourager à ne pas remettre cela à plus tard, parce que plus tard, ça sera peut-être trop tard. On ne sait pas de quoi la vie sera faite. Et donc c'est aujourd'hui qu'il faut croire en Jésus, c'est aujourd'hui qu'il faut placer sa confiance en Jésus pour avoir le pardon de toutes nos fautes. C'est le sens du chant qu'on va chanter dans un instant et j'aimerais vous encourager à le chanter comme une prière. Peut-être vous dites, mais oui, c'est vrai, je ne devrais pas remettre ça plus tard. Comment faire? Commencez en chantant ces paroles de tout votre cœur. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. » Vous dites peut-être, mais je ne suis pas encore comme j'aimerais être. Je ne peux pas encore venir, c'est trop tôt, je ne me sens pas prêt. Non, il faut venir tel que je suis, sans rien à moi. Jésus a tout fait. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Son œuvre était suffisante. Alors je vais prier, et puis on se mettra debout pour chanter ces paroles, tel que je suis. Sans rien à moi. Prions. Notre Dieu, merci pour ton pardon généreux. Merci pour ton amour qui s'est manifesté en la personne de Jésus. Merci parce que Jésus a tout fait. On te prie que tu brises l'orgueil de notre cœur qui nous empêche de venir à toi et que l'on puisse venir à toi tel que l'on est, avec notre péché, avec notre misère, avec nos problèmes, avec notre imperfection, pour recevoir de ta part le pardon de toutes nos fautes. Aide-nous à pouvoir continuer à creuser ces choses. Aide-nous en tant qu'Église à rester attachés à ce message, à cette belle histoire de la foi chrétienne, à continuer à la proclamer et à continuer à la vivre. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.